BFM Business, midi, l'heure H, avec Karine Verniolle.
Bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 13h donc pour faire un nouveau tour de l'actualité. Au menu aujourd'hui encore, c'est l'actualité internationale qui forcément perturbe un petit peu les marchés. Hong Kong, toujours sous pression, trafic aérien de nouveau suspendu, en tout cas au départ de l'aéroport, et selon la chef de l'exécutif, le mouvement de contestation plonge la ville dans un état de panique et de chaos. Correspondant sur place dans un instant. En Allemagne, la confiance des investisseurs est en chute libre, moins 44% pour l'indice ZOO au mois d'août, au plus bas depuis 8 ans. Tout ça fait qu'à Paris, le CAC 40 actuellement, si on regarde ce qui se passe après une journée un petit peu difficile hier, on est en chute de 0,55 points à 5280 points. On fera un point complet sur les marchés après le journal avec Grégoire Favet. L'actualité, c'est aussi Salto, la plateforme de vidéos à la demande de France Télévisions, TF1 et M6, qui a enfin reçu le feu vert de l'autorité de la concurrence hier. Alors comment va fonctionner cette équipe de France de l'audiovisuel? Cela suffira-t-il à freiner la déferlante Netflix? Réponse vers 12h40 avec Pascal Le Chevalier, consultant média chez What's Hot Media. Et puis nous reviendrons également sur l'été studieux de la grande distribution. Les grandes enseignes multiplient les tests pour attirer les clients. Casino veut ouvrir un hyper sans caissière le dimanche. Intermarché lance un nouveau concept. Carrefour lance Supéco en France. Décryptage avec l'expert grande conso Olivier Dauvert dans une dizaine de minutes. Mais pour l'heure, c'est le journal tout de suite avec Maëlle Laurent. Bonjour Maëlle.
Bonjour Karine et bonjour à tous.
On commence donc avec Hong Kong. Les manifestants sont toujours installés dans l'aéroport et on vient de l'apprendre. Là, ça y est, plus aucun vol ne démarre de Hong Kong.
Et oui, l'aéroport avait rouvert ce matin. Trafic perturbé. 200 vols annulés ce matin, et puis l'aéroport qui suspend toutes ses procédures d'enregistrement pour ses vols. La tension qui ne retombe pas sur place, des centaines de manifestants qui bloquent toujours l'aéroport. On retrouve sur place Angélique Forget, correspondante à Hong Kong. Angélique, Pékin hausse le ton et lance des menaces à peine voilées face aux contestataires.
Oui, hein, Pékin a dit voir dans ce mouvement de contestation des signes de terrorisme. Les mots sont forts, le pouvoir central se montre menaçant depuis quelques jours. Des vidéos de propagande circulent, on voit entre autres la police chinoise en exercice amassée à la frontière. Officiellement, il ne s'agit que de répétitions pour un défilé, mais la coïncidence est troublante. Visiblement, Pékin veut faire passer un message. D'ailleurs, la semaine dernière, un haut responsable chinois a mis en garde les manifestants. Ceux qui jouent avec le feu périront par le feu, a-t-il dit. Et ce week-end, on a assisté incontestablement à un durcissement de la répression de la part des forces de police de Hong Kong.
Alors, Angélique, dans ce contexte, on voit mal comment une sortie de crise peut être à présent envisagée.
Oui, hein, car de leur côté, et malgré ces menaces, les manifestants se montrent eux aussi inflexibles. Leurs revendications sont toujours les mêmes. D'une part, ils veulent le retrait définitif d'une loi pour l'instant simplement suspendue qui aurait permis les extraditions vers la Chine continentale. Ils demandent également l'amnistie des personnes inculpées depuis le début de la contestation. Et puis, ils veulent également l'instauration du suffrage universel. Plus largement, ils veulent plus de démocratie. Jusqu'où ira donc ce mouvement? Vous savez, ici, les manifestants ont tous en tête l'échec de la révolte des parapluies en 2014. Pendant 79 jours, les manifestants avaient occupé le quartier des affaires de Hong Kong, mais cela n'avait rien changé. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas d'une deuxième défaite.
Merci à vous, Angélique Forget, correspondante depuis Hong Kong. Et cet autre front pour Pékin, qui continue d'affirmer son autorité face aux attaques dans la guerre commerciale avec les États-Unis. Les États-Unis qui poussent les Chinois à toujours plus de patriotisme économique. Exemple de cette mobilisation des consommateurs chinois avec le cas Huawei, Laura Cambeau.
Dans la guerre commerciale avec les États-Unis, la Chine a sorti une carte spéciale, la fibre patriotique des très nombreux consommateurs chinois. Première démonstration fin juillet avec la publication des résultats de Huawei en hausse malgré les représailles de la Maison Blanche. Des résultats particulièrement bons sur le territoire national. Huawei a vendu plus de 37 millions de smartphones en Chine, des ventes en hausse de 31% par rapport à la même période l'année dernière. Résultat, Huawei prend la tête du marché chinois, loin devant son concurrent, le sud-coréen Samsung. En parallèle, les Chinois boycottent de plus en plus les produits américains. D'après une enquête menée par le cabinet de conseil Brunswick, 56% des Chinois interrogés auraient évité d'acheter un produit d'origine américaine pour soutenir leur pays. Maintenant, reste à surveiller les conséquences des sanctions américaines qui s'appliquent dès aujourd'hui. L'un des dirigeants de Huawei a admis que le groupe devrait se battre pour sa survie.
Autre front de crise en Europe, cette fois avec de nouveaux indicateurs en Allemagne, mais pas très rassurant.
Et oui, d'abord le moral des investisseurs pour ce mois d'août, mesuré par l'indice Zou, il est au plus bas depuis plus de 7 ans et demi. Dégradation bien plus marquée qu'attendue sur fond de tensions commerciales et de détérioration des perspectives de croissance en Allemagne. Et puis autre signal, la publication d'Henkel, le géant des produits de consommation grand public, qui déçoit au deuxième trimestre, bénéfice en repli de près de 10% sur un an. En cause, une baisse de la demande sur la plupart de ses marchés clés. Henkel fortement sanctionné ce matin, moins 7% à la bourse. En Europe toujours, suite de l'incertitude politique en Italie, le Sénat qui se réunit aujourd'hui pour fixer la date de vote sur la motion de défiance déposée par la Ligue de Matteo Salvini. Objectif, renverser la coalition gouvernementale et obtenir des élections anticipées à l'automne. Cette motion de censure qui ne semble pas faire l'unanimité à ce stade. Le président du Conseil, Giuseppe Conte, s'exprimera devant le Sénat sur le sujet la semaine prochaine. Et un mot de Brexit également, un Brexit qui devient de plus en plus palpable pour l'économie britannique et pour le comportement des consommateurs, avec cette crainte d'un risque d'approvisionnement post-Brexit. Et dans ce contexte, les Britanniques se mettent à stocker nourriture, médicaments, 4 milliards de livres de produits déjà stockés. C'est un chiffre qui nous est donné par la presse britannique.
Dans l'actualité des entreprises, justement, les conséquences du Brexit qui commencent à peser sur certaines entreprises.
Oui, avec Getlink qui souffre d'abord, l'opérateur du tunnel sous la Manche qui ralentit avec son trafic passager de moins 7% au mois de juillet, une baisse qui atteint 10% sur le trafic des camions. C'est difficile aussi pour le voyagiste Thomas Cook. Le tour opérateur est en discussion avancée avec des créanciers. Objectif, c'est de récolter 150 000 millions de livres supplémentaires, somme indispensable pour assurer la survie du groupe qui doit notamment faire face à un environnement économique, évidemment avec la menace du Brexit. Coup d'œil à présent sur les chiffres de Saudi Aramco, la société la plus rentable du monde si l'on en croit la taille de son bénéfice. Bénéfice de plus de 47 milliards de dollars sur le premier semestre, en baisse de 12% par rapport au premier semestre 2018 malgré tout. Conséquence directe de la chute des cours de pétrole. Alors c'est la première fois que les résultats de Saudi Aramco étaient présentés lors d'une conférence de presse. Opération de communication inédite pour le groupe donc, et une première étape avant une possible introduction en bourse. La société y songe, mais elle ne dévoile pas son calendrier.
Un mot sur la France.
Et oui, avec Salto qui va enfin être lancé en 2020. L'autorité de la concurrence a donné son feu vert hier à la plateforme commune entre TF1, M6 et France Télévisions, censée apporter une alternative à Netflix sur le marché du streaming. Riposte qui tardait à se concrétiser. Voyez les explications de Théo Népip-Voda.
Salto va enfin voir le jour, censé rivaliser avec Netflix. La plateforme de replay commune à TF1, France Télévisions et M6 a été annoncée en grande pompe il y a plus d'un an. Mais le projet qui regroupe les principaux groupes audiovisuels français a fait l'objet d'un examen approfondi de l'autorité de la concurrence, d'où ce délai qui a agacé les patrons des trois groupes concernés. L'autorité de la concurrence donne finalement son feu vert, mais avec certaines contraintes. Parmi elles, l'interdiction de mettre sur Salto l'intégralité des programmes diffusés sur TF1, M6 et France Télévisions. Concrètement, la plateforme proposera pour un tarif entre 2 et 5 euros un catalogue de vidéos à la demande, mais également les lives des différentes chaînes. Le lancement de Salto est prévu pour le début de l'année prochaine, de quoi laisser encore un peu de temps à Netflix pour faire cavalier seul sur le marché français du streaming.
Et Salto, on y reviendra à 12h40, on décryptera justement ce que sera cette plateforme vidéo avec Pascal Le Chevalier. Mais Laurent, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Midi et demi, on vous retrouve pour le journal. Tout de suite, on fait un point sur les marchés. Grégoire Favet, bonjour. Toujours en baisse les marchés.
Oui, effectivement, les marchés qui n'arrivent toujours pas à rebondir dans le contexte actuel d'aversion pour le risque, avec de nouveaux foyers de tension à surveiller pour les investisseurs. L'Argentine, Hong Kong également, qui commence à avoir des répercussions alors sur le moral des investisseurs, mais sur certains titres boursiers. On en parlait dès hier, mais on voit le titre Kering qui recule encore de près de 3% actuellement. L'automobile qui est à nouveau sanctionné aujourd'hui dans ce contexte d'incertitude globale, de risques en augmentation qui font... craindre une récession peut-être dans les prochains mois. C'est en tout cas l'angoisse des investisseurs aujourd'hui. On l'a vu avec le moral des investisseurs en Allemagne au plus bas depuis 8 ans, effectivement. L'automobile donc qui paye son tribut quotidien, on va dire, à cette situation. Renault et Peugeot reculent de plus de 2,5% cet après-midi. On voit également quelques valeurs internationales dans la tech qui sont vendues. STMicro recule d'1,65%. Et puis à l'inverse, on notera quelques valeurs de rendement défensives qui sont sollicitées par les investisseurs aujourd'hui. Total, par exemple, mène la danse au sein du CAC, plus 0,9%. Sanofi gagne 0,7%. Et puis le secteur des utilities ou encore des télécoms, avec les rendements versés qui continuent d'attirer les investisseurs. Veolia, par exemple, progresse de 0,5%. Ou encore Orange dans les telcos qui progresse de 0,25%. Le CAC qui poursuit sa baisse, troisième séance de repli consécutive depuis la fin de semaine dernière. On cède 0,6% à la mi-journée à la Bourse de Paris. Le CAC autour de 5280 points.
Merci Grégoire. On vous retrouve juste après le journal de midi et demi à 15h30 pour un point complet sur toutes ces actualités autour des marchés financiers. Merci beaucoup à vous. Restez avec nous. C'est l'Orage. On fait un point sur l'été animé de la grande distribution dans un instant.